Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes, bienvenue pour notre 80e épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit une femme, enfin! Et c'est Pauline Parmentier pour une interview enregistrée avant sa retraite. Pauline travaille depuis à la Fédé en tant que responsable des joueuses juniors et ambassadrice de l'Open d'Angers, tournoi de Nicolas Mahut. On parle de son passage de 5 années chez Patrick Mouratoglou et du fonctionnement de l'académie pour les joueurs et joueuses de son statut. Elle nous raconte sa manière d'avoir vécu le circuit secondaire et ce qu'elle recommande aux joueuses de réaliser en termes de temps de passage. On revient évidemment sur cette campagne magnifique de Fed Cup 2019, ainsi que l'accomplissement personnel qu'un certain Yannick Noah lui a permis d'atteindre. On évoque aussi Nick Bollitieri, chez qui Pauline a fait un crochet en 2019. On termine par le coût financier de ces saisons, le coaching en couple, sur le circuit et les traditionnelles questions de fin. Avant de laisser place à l'épisode, récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description de l'épisode juste en dessous. Et t'as aussi accès à notre 13e masterclass et accroche-toi, c'est du très lourd. Elle est tournée avec Alain Cassaigne, le papa de Julien, passé sur le podcast épisode 18. Une masterclass, c'est quoi? C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort? Quel sujet maîtrises-tu le mieux? Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match ou à manger la bulle comme contre Pauline Parmentier, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Alain est un des premiers joueurs à avoir été négatif en France. Il enseigne le tennis depuis plus de 50 ans et a traduit la Bible du mental que vous avez entendu être cité régulièrement sur le podcast de In a Game of Tennis de Timothy Galloway. Alain a été le traducteur de ce livre best-seller et édité 14 fois, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, est victime de son succès, épuisé en français. Et hélas, non réédité, même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab. Mais on a trouvé la parade, j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage. Référence pour vous les rendre accessibles sur le court, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ses clés dans son coaching. Il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge, jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle ni une méthode clé en main. On ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression. On te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce, dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique qui peut surgir en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une fois ou deux maximum par saison. Généralement avec 4 matchs dans les jambes, quand on sent la balle comme jamais, Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place à ce moment-là et pendant lesquels il a marché sur l'eau lui-même et sur ses adversaires pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis un demi-siècle. Et oui, vous avez bien entendu, et qui est surtout passionné comme à la première heure. Pour un aperçu, tu as la bande-annonce qui est dans le deuxième lien en description de l'épisode. Allez, c'est parti pour notre 80e épisode avec une Pauline Parmentier à la cool. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Bon, oh, vas-y, j'écoute ton intro.
Here we go. Tu te souviens, Pauline, quand on jouait sous la bulle à...
Mais non, Alisa, elle me dit ça, je me souviens pas, ça me rend dingue.
T'étais avec...
C'était à Tiverval, du coup.
T'étais avec, ouais, t'étais avec Nico Copin, je crois. Non, avec Stéphane Bellarbi, je crois.
Ouais, ouais, ouais.
Et tu me collais des aces à 0-0, slicé.
C'est énorme.
Sur la terre, sous la bulle, sur la terre. Là,
mais ouais, je me souviens très bien de là-bas, mais quand Lisa m'a dit ça, je lui ai dit putain, merde, je me souviens pas. Et putain, ça date, quoi.
Je t'avais croisé une ou deux fois à l'INSEP aussi, je faisais un stage et t'étais avec Nico Copin.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Et là maintenant, donc t'es à Bidart et tu passes là-bas.
Ouais, ouais, j'ai.
Tu joues toujours ?
Je suis 15, je crois. Mais j'ai arrêté complètement, je joue au paddle.
Ah, ok, cool. Ouais.
Allez, c'est parti. Alors, Pauline, t'es née le 31 janvier 86 à Cuc-Trépied, c'était la plage. Je l'ai bien prononcé ?
Ouais, c'est ça.
En région Hauts-de-France. Tu mesures 1m75, tes parents travaillent dans le business du cigare. Il va falloir que tu nous en touches un petit mot après. Tu as deux grands frères, Olivier et Julien. Tu as commencé à jouer au tennis à 6 ans en famille et tu faisais aussi de l'athlète étant jeune. Tu t'es entraîné 5 ans donc à l'Académie Mouratoglou dans les Yvelines. Je t'ai d'ailleurs servi de sparring quelques fois. Je mangeais la bulle quand tu me collais des ailes slicées à chaque début de jeu. Merci.
J'adore.
Tu as joué tes premiers tournois pro en 2000 et étonnamment, rien les deux années qu'on suivit. Puis tu as commencé à envoyer du lourd à partir de 2003. 5 ans plus tard, tu as atteint ton meilleur classement, 40e joueuse mondiale en 2008. Cette année-là, tu as d'ailleurs participé au JO de Pékin. Tu as fait 47 fois tableau final en Grand Chelem. En 2014, tu fais ton meilleur résultat en majeur. Et c'est à la maison, à Roland, que tu sors un 8e de finale, un peu de nulle part parce que tu es redescendu à la 145e place. Tu sors au premier tour Roberta Vinci, tête de série 17, alors que tu es mené 6-2, 3-1. Puis Shvedova, double quart de finaliste à Roland, ainsi que Mona Bartel avant de perdre contre Garbiñe Muguruza. Je le prononce avec l'accent aussi.
Ouais, je vois ça.
Tu as remporté 4 titres. Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan, en finale contre la tête de série 1, Azarenka en 2007. Badgastein en 2008 dans les montagnes autrichiennes à 1000 mètres d'altitude. Tu étais en mode baroudeuse. Puis Québec City et Istanbul 10 ans plus tard en 2018. Au passage, tu bats d'ailleurs ta première top 10 en Turquie, la numéro 2 mondiale de l'époque, Caroline Wozniacki. Toi qui étais pas loin de raccrocher tes raquettes à ce moment-là. Tu as également gagné 13 titres sur le circuit secondaire, 10 en simple et 3 en double. Tu as fait partie de la campagne victorieuse de Fed Cup en 2019 en ramenant la France au bord du gouffre à deux partout en 2 heures de jeu en demi-finale contre la Roumanie. Après la victoire en finale en Australie, vous avez été reçu en grande pompe à l'Elysée et tu as avoué au micro de Bean que tu avais fait quelque chose que tu ne peux pas divulguer parce que le président avait le dos tourné. Il va falloir que tu passes aux aveux, Pauline. Tu es décrit comme attaquante de fond de cours. Tes armes sont le service et le coup droit. Ta surface préférée, la terre. Depuis 4 ans, tu es coaché par Olivier Patience. Tu admirais Roger et Agassi en grandissant. Loïc Courtois, avec qui tu partages ta vie depuis plusieurs années. C'est toujours le cas ? Je ne me suis pas planté ?
Non.
Ah merde, putain, la boulette.
C'est pas grave.
Je voulais t'en parler avant.
Depuis l'été dernier, on n'est plus ensemble.
Bon.
Mais tu peux en parler, il n'y a aucun souci. Mais...
Alors, Loïc Courtois, avec qui tu as partagé ta vie plusieurs
années. Voilà.
Qui t'a entraîné, ainsi que l'équipe de France de Coupe Davis, Julien Beneteau ou encore Amélie Mauresmo, disait de toi, en tout cas, que tu étais sensible et fragile, que tu pouvais souvent avoir une fausse image de toi. Quand tu gagnes, c'est l'autre qui n'a pas bien joué. Et quand tu perds, tu es nul. Tu es dur avec toi-même. Mais que tu n'as jamais rien lâché. Tu as toujours bossé. Que tu as été patiente et que ça a fini par payer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur, Pauline ?
Non. Ça, j'aime bien cette présentation. Écoute, non. Après, le seul truc, c'est que mes parents, ce n'était pas un business de cigares. En fait, ils ont été commerçants pendant longtemps dans la restauration. Et ouais. Sur la fin, là, ils sont à la retraite. Et sur la fin, ils bossaient ils avaient un tabac l'autopresse. Mais ils n'étaient pas dans le truc du cigare. Quoi. Ah donc voilà, c'est le seul truc qui n'était pas. Mais sinon, moi, j'ai deux frères, j'ai commencé en famille. C'est marrant d'écouter le palmarès comme ça, c'est cool.
Est-ce que tu peux nous. Donc, tu as commencé en famille, mais est-ce que tu peux nous rappeler qui a donné la raquette à qui et comment, quelle sensation tu as eu au départ ?
Alors, en fait, j'ai deux grands frères qui ont 6 ans et 8 ans de plus que moi. Donc, j'étais la petite dernière à la maison et eux, ils avaient 2 ans d'écart, donc ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est vrai que moi, j'avais tout le temps envie d'être avec mes frères, avec mon cousin, à qui j'avais 3 mois d'écart avec lui. Et en fait, mes frères, mes parents jouaient un peu au tennis dans le club de la ville où on était dans le nord à l'époque, à Berck-sur-Mer.
Ouais.
à côté de Cuxtella Trépied, où je suis juste née en fait, parce qu'il n'y avait pas de maternité à Berck, donc du coup je suis née à Cuc, mais je n'ai jamais vécu là-bas. Donc du coup je me suis mise à jouer au tennis pas mal, parce que j'avais envie d'être avec mes frères, j'avais envie de les embêter, d'être collée à eux tout le temps, et donc dès qu'ils allaient sur les terrains, je me greffais à eux et j'allais avec eux, donc ils ne jouaient pas tout le temps avec moi, donc j'avais la chance d'avoir un mur à côté, donc je me suis beaucoup mise à jouer contre le mur au début, et en fait tout s'est assez enchaîné assez vite par la suite, parce que j'étais repérée par un entraîneur du club qui a dit à mes parents j'aimerais bien l'apprendre, j'ai fait le premier stage là-bas, j'aimerais bien l'apprendre en cours indiv, en cours compète, voilà, et en fait tout a été assez vite derrière.
Nice. Est-ce que tu peux nous situer ta progression au classement français à partir de non classé jusqu'à...
Ouais, alors j'ai la progression, mais par contre je sais pas quel âge exactement je l'étais, tu vois.
Peu importe.
Mais j'ai fait donc non classé, j'ai été 31 ensuite en classement, tu sais quand on te donne ton premier classement où normalement tu n'as pas le droit d'être classé, mais tu peux être quand tu es dans les meilleurs jeunes, tu as ce classement là. Donc 31 15-3. Et alors, attends, quand j'étais 30 ans, ma mère était 30 ans et ça me rendait dingue parce que je voulais à tout prix être meilleure classée que ma mère. Tu vois, je voulais être mieux classée que ma mère, c'était pas jouable. Donc, j'ai fait 31, 15, 3, 15, 3, 15, 15, 3, 6, 3, 6, 0, 0, moins 2. Là, c'est une année où je me suis blessée, je me suis déchirée les ligaments de la cheville, donc je suis restée à moins de 6 l'année suivante. Et l'année d'après, j'ai gagné le Critérium, donc le championnat de France première série. Et je suis passée de moins de 6 à numéro 20. En fait, quand tu gagnes le classement première série, la première série du classement français, c'est de numéro 1 à numéro 20. Et quand tu gagnes ce championnat, tu passes numéro 20 directement. Donc, j'ai fait moins de 6, numéro 20.
Okay.
Et ensuite, je ne saurais pas te dire exactement. J'ai fait 20, 10, je ne sais pas après exactement la progression. Ouais. Mais le départ, ça a été ça, quoi.
Tu étais refaite du coup de faire 31, 15, 3 pour dépasser ta mère?
Ah bah ouais, c'était le rêve. Mais moi, l'année où j'étais 30 ans, j'avais qu'une envie, c'était d'être 30, tu vois, juste pour être devant elle. Mais elle me dit, t'inquiète, t'auras le temps. Mais j'avais l'impression que ça allait être impossible, tu vois. Et en fait, ça, c'est drôle.
Quand tu t'es blessé à moins 2, ils t'ont laissé parce que, un peu comme le classement protégé, quoi.
Non, mais en fait, j'avais fait quand même un début de saison et je pense que j'avais les points pour me maintenir. Ouais. Et après j'ai eu le plâtre et tout ça, ça a duré 4-5 mois, donc ça n'a pas duré un an complet, donc j'ai pas été maintenue tu vois, en classement protégé, mais je pense que j'avais suffisamment de points pour me maintenir.
Et comment tu quelle structure d'entraînement tu avais à cette époque là et comment tu as atterri à Mouratoglou?
Alors en fait j'ai commencé à 11 ans, je suis partie en sport études dans ma ligue de région. J'étais en internat là-bas parce que mes parents bossaient beaucoup, donc j'ai rentré le mercredi et le week-end. J'étais à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi, donc c'était horaire aménagé et entraînement l'après-midi, donc ça c'était le sport études de ligue. Ensuite à 13 ans je suis partie en sport études à Talence, au Crêpes de Talence, donc il y avait un sport études pour les filles à Paris et un Talence. Moi j'ai été sur celui de Talence pendant 2 ans.
Ok.
Donc, gros changement parce que je partais vraiment loin de chez moi. Mes parents qui étaient dans le Nord, je me suis retrouvée à vivre à Bordeaux. Voilà, c'était une grosse décision. 13 ans, sur le moment, ça paraît normal quand je pars. Mais quand je vois aujourd'hui les petits 13 ans ou même de 11 ans, je me dis que c'est hallucinant d'avoir fait ce choix à l'époque. Mais c'est après qu'on se rend compte que c'était un peu fou, un pari un peu fou. Mais voilà, ça valait le coup. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, donc, j'ai fait Bordeaux-Talence de 13 ans à 15 ans. Ensuite, à 15 ans, je suis allée au CNE à Roland-Garros avec la fédération pour m'entraîner là-bas. Okay. Et en fait, au bout d'un trimestre, je m'entendais pas très bien avec l'entraîneur à l'époque. Et du coup, j'ai dit à mes parents que je voulais pas forcément rester là-bas. Et à cette époque-là, en solution hors fédé, c'était un peu la panique, quoi. Il n'y avait pas forcément beaucoup de structures. Et il y avait cette structure de Patrick Mouratoglou qui avait été montée. Donc, je suis allée faire un test, un essai là-bas. Et ça s'est super bien passé avec Patrick. Donc, je suis partie chez Patrick Mouratoglou, qui était Bob Brett à l'époque, pendant 5 ans, de 15 ans à 20 ans. Et ensuite, j'ai réintégré la fédération pendant 3 ans, je crois, de 20 à 23 ans. Et après, j'ai pris ma structure Enfin, j'ai financé ma structure et j'ai volé mes propres ailes vers 23 ans, quoi. 22, 23 ans.
Du coup, quand tu es parti pour ton premier sport étude à 11 ans, c'était quoi ton rêve un peu secret dans le tennis, niveau accomplissement?
Bah, en fait, mes premiers rêves, c'était plutôt des trucs, enfin, c'était plutôt l'équipe de France. C'était plutôt les trucs d'équipe. Parce que j'avais tous ces souvenirs de Coupe Davis que j'avais vus étant jeune. Et c'était vraiment ça qui m'avait plu dans le tennis. Après, forcément, il y avait Roland, mais je me suis jamais dit je veux être numéro un mondial. Je me suis plutôt dit j'ai envie de faire partie de l'équipe de France, j'ai envie de gagner des gros tournois. Forcément, Roland Garros, ça faisait rêver, mais le classement, en fait, ça m'a jamais, c'est jamais un truc qui m'a. Forcément, ça vient avec, mais il y en a souvent, on entend, ah, je veux être numéro un mondial et tout. Moi, je me rappelle pas avoir eu ça.
Je me souviens, on a 4 ans d'écart quand même, et je te voyais clairement comme une grande à Muratoglu. tu faisais vachement de physique, tu étais déjà un peu. Bon, il y avait beaucoup de groupes collectifs. Toi, tu étais plus avec un entraîneur individuel, tu avais un programme assez particulier et tout. À ce moment-là, est-ce que tu étais vraiment mentalement dans les prédispositions à accomplir ce que tu allais accomplir dans la foulée, ou tu n'en savais rien du tout? Tu étais dans quel état d'esprit?
Bon, ça a commencé. C'était la période où tu commences à voir que tu es dans les meilleurs, à être sélectionné sur les Coupes d'Europe de jeunes, tous les championnats, bah, je voyais que j'étais dans les équipes. Donc, tu commences à croire un peu en tes rêves, même si tu sais que le chemin va être très long, parce que la transition de jeune au circuit pro, elle est très difficile. Mais c'est un peu le moment, ouais, le timing où tu prends conscience que ça peut se passer et que c'est là que tu dois faire des choix. Et moi, un des choix que j'ai fait à ce moment-là, j'avais mes études à côté. Et en fait, le fait de quitter la fédération, je passais dans une structure qui coûtait un peu d'argent à mes parents. Et en fait, ils m'ont dit de faire un choix. Enfin, je leur ai dit, ils m'ont dit, mais je passais en cours par correspondance. Et du coup, il fallait financer tout ce qui était le CNED, etc., avec les profs particuliers, ce qui était beaucoup de frais. Ouais. Et en fait, j'ai dit à mes parents, s'il vous plaît, aidez-moi à financer mon tennis. Je vais gérer les études, je vous promets, j'ai pas besoin de prof, je vais avoir le CNED et tout, mais je vais le faire toute seule et tout. Bon, bah, je me suis pas présentée au bac, ça a été une cata.
Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description. Et si tu veux une version décortiquée et applicable dès ton prochain entraînement de la Bible du mental de In a Game of Tennis de Timothy Galloway, t'as accès à notre 13e masterclass avec Alain Cassaigne qui a traduit ce best-seller et s'en sert depuis plus de 50 ans de coaching sur le terrain. C'est un cours d'une heure et demie en 12 parties détaillées avec en bonus des stratégies de jeu payantes à bosser à l'entraînement et des astuces claires et ludiques que j'ai testées immédiatement. Ma concentration et la précision de mes zones ont déjà pris un énorme coup de boost. Foncez les yeux fermés, le lien est juste en dessous.
Mais du coup, ça a été un pari un peu fou à ce moment-là. Mes parents m'ont fait plus ou moins confiance. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, quand on en rigole, ce qu'ils m'ont dit, tu nous as bien arnaqué sur le coup. Mais c'était après j'ai eu la chance d'être beaucoup aidée par Patrick à l'époque financièrement. Il m'a aidée à ce moment-là parce que quand on commence le tennis c'est vraiment beaucoup de frais, donc j'ai eu la chance de tomber sur lui à cette époque-là et d'avoir mes parents qui me soutenaient aussi derrière. Donc ouais. Mais ouais, c'est ce moment-là où tu fais un choix entre les études, le sport, avec tous les voyages qui sont liés avec le tennis, c'est dur de pallier les deux, quoi.
Le deal avec Patrick, c'était il t'avance un peu les frais et tu reviens quand tu commences à avoir du prize, ou ça marchait comment?
Ouais, en fait, tu avais un contrat en gros où lui il faisait un pari sur toi. En gros, il t'avançait et puis si jamais tu réussis, tu redonnes une partie, ou s'il te trouve des contrats, il te prend une partie. Enfin, c'était un truc style agent, quoi.
Ouais. Après, je me souviens d'une joueuse qui était Irina Pavlovic.
Ouais.
Qui était bien monté, qui devait être 150, je crois, un truc comme ça. Et Elle était de ton année d'âge aussi, non?
Non, elle est plus vieux. Je crois qu'elle était 88, à 2 ans de moins, quoi.
88. Et ben voilà, mine de rien, on ne sait jamais si on va vraiment réussir, quoi.
Non, bah elle, typiquement, quand elle avait 12 ans, elle a signé, je crois, un contrat chez Nike pour 10 ans. Et c'était des gros paris sur cette joueuse. Et il lui promettait un avenir. C'était la Monica Seles. Elle jouait à deux mains des deux côtés. Elle venait d'un pays de l'Est. Voilà, c'était vraiment... elle était comparée à une carrière à la Monica Seles. Et puis finalement, elle a pas... Enfin, elle est montée, mais elle n'a pas percé comme c'était prévu. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on faisait notre petit bonhomme de chemin à côté d'elle. On la voyait, elle était vachement mise en avant. Elle avait que 12-13 ans, quoi. Elle faisait déjà des photos, des interviews, elle signait des gros contrats. C'était assez, assez démesuré à l'époque, quoi.
Ouais.
Et bon, après, ça fait partie des paris que font les marques et les risques du métier, quoi.
Elle me faisait aussi manger la bulle.
Ouais, elle jouait, c'était incroyable, une frappe. Elle avait une rage avec ses deux mains là. C'était une petite crevette à l'époque et elle en voyait, c'était hallucinant.
Ouais, c'était incroyable. Mon papa Dragan, Dragan qui passait le filet sur la terre en courant.
Ouais.
Putain, c'était une machine.
Ouais, c'était marrant.
Est-ce que tu as joué les juniors du coup? Les grands chelems juniors?
Alors, j'ai joué les grands chelems juniors, mais j'ai pas été bonne dans les juniors. J'ai dû être, je crois que j'étais dans les 100 meilleurs, mais pas. J'étais pas dans les top. Je crois que j'ai pas fait Wimbledon junior. J'ai dû faire l'Australie où je m'étais qualifiée et Roland. Mais j'en ai pas fait beaucoup, non.
Est-ce que tu aurais une petite anecdote chez les jeunes avec, je sais pas, des joueuses qui sont devenues très fortes par la suite ou un souvenir en particulier?
Sur les juniors, non, mais il y a un truc très drôle, c'est que en fait mes parents là, ils ont ma mère, donc là avec le confinement, ils font des tris et ils ont retrouvé des tennis mag de il y a 100 ans parce que ça date maintenant. Et elle m'envoie un truc en je sais plus quelle année où j'avais gagné le tournoi de Saint-Raphaël, donc c'était un 50 000 dollars je crois à l'époque, ouais. Et j'avais battu Alep en quart de finale.
Ah, excellent. Très bon ça.
Et je me souvenais même pas, tu vois, que des fois on te dit tu te souviens machin, je me rappelais même pas avoir battu Alep, quoi. Et donc c'est dément de voir ça et de voir après la carrière d'Alep et voir que qu'on s'est croisé à Saint-Raphaël sur un tournoi un peu improbable, quoi. C'est marrant.
Tout premier point WTA, tu t'en souviens? Est-ce que ça t'a
alors le tout premier point WTA, je crois que c'était sur un circuit au Caire. Ce sera vérifié, mais en fait on était parti, donc quand j'étais chez Patrick, moi à Toulouse, on était tout un groupe avec Mandy Minella, il y avait Audrey Bergo, il y avait des joueuses de Nouvelle-Zélande, il y avait Irena dans le groupe aussi, et on était parti tous ensemble avec Nicolas Copin faire des tournois au Caire, je crois que c'était les premiers, ou alors peut-être où j'avais eu une wildcard sur des tournois français à Villeneuve-d'Ornon ou des petits des 10 000 dollars à l'époque.
Ah, ça t'a pas marqué plus que ça vraiment?
Non, ça n'a pas marqué plus que ça, non.
Un bol du premier point, quoi?
Non.
Ok.
Non, mais tu sais, à l'époque, il fallait 3 tournois pour valider tous tes points, rentrer dans le classement et tout. Et du coup.
C'est un satellite, du coup.
Ouais, c'était. En fait, non, c'était pas les satellites comme les mecs, mais il fallait que tu valides 3 fois un tableau final pour rentrer dans le classement et du coup avoir tes points. Donc le premier point que tu prenais, finalement, il était pas... c'était pas concret, quoi, tu vois.
Ok. Ouais. Et t'as commencé à enchaîner les tournois pro quand t'étais à Muratoglu ou après sur ta période fédé?
Non, je crois que j'ai commencé à la fin de Muratoglu.
Ouais.
Quand on était à Tibermal, je crois que j'étais déjà, j'ai du mal avec les années. Mais non, c'était déjà chez Patrick, j'avais commencé. Oui, bien sûr, j'ai 28 ans maintenant. J'avais commencé les 25 000, tout ça, tous les tournois chez Patrick.
Et comment s'est passée ton évolution? Tu as traversé un peu de la jungle de ce circuit secondaire, même tertiaire.
Ouais, bah, je crois que j'ai regardé la dernière fois tous les classements de fin d'année, mais au début, c'était, j'avais pris quelques points, j'ai été, je crois, assez vite 300, 200. Et puis, et après, d'un coup, je suis montée, je devais être entre 100 et 200, et c'est l'année où j'ai gagné mes tournois, et je suis passée quasiment mon meilleur classement en étant 40e. C'est venu assez vite. Ça, c'était, j'avais 22 ans, quoi.
Ouais, donc finalement, hyper jeune.
Hyper jeune, ouais.
C'est allé assez vite. T'as pas eu la sensation de trop végéter, trop stagner ou quoi?
Non, pas du tout. j'ai pas du tout eu ça parce que au début en fait on mixait entre les tournois, les premiers tournois WTA et les juniors, donc voilà. Et puis après j'ai fait les tournois pour commencer à prendre vraiment les points, et après ça a été assez vite.
C'est hyper rassurant parce que si tu commences à galérer dans les 10 25 000 où tu gagnes pas grand chose.
Ouais, c'est toujours le risque de. Mais je me souviens à l'époque, Nicolas Copin, il nous disait, nous on était contents d'aller faire les 10 000, tu vois, se lancer sur le circuit, c'était génial, quoi. Ouais. Mais il nous disait, c'est vraiment pas le but. L'objectif, c'est de. En fait, c'est une petite formation, ces tournois-là, mais il faut surtout pas y rester parce que il faut traverser ça en mode formation et après on passe à autre chose, quoi. L'objectif, ouais, c'est vraiment pas de rester dans ces tournois-là, quoi. Même si c'est des très bons tournois pour commencer, pour débuter. Et en général, les meilleurs, celles qui passent vraiment le cap, tu les vois pas rester longtemps sur ce genre de tournoi.
Pourquoi avoir quitté l'académie, du coup ?
Pourquoi avoir quitté l'académie ? Parce qu'en fait, je m'entraînais avec Stéphane Bellarbi à l'époque, et on avait décidé, avec qui j'étais en couple aussi. Et on avait décidé de partir en privé tous les deux, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et le rapprochement avec la Fédé s'est fait comment ?
Eh ben en fait après quand je me suis séparée de Stéphane, j'étais dans les stages, les équipes de France et tout ça, et du coup il m'avait proposé de me mettre un entraîneur à disposition, et du coup j'ai accepté, et c'est comme ça que je me suis rapprochée de la fédération. Mais même en étant chez Patrick, j'avais toujours un très bon rapport avec la Fédé, quoi.
Yes. Tu te souviens du moment où tu as passé la barrière du top 100 et si ça t'a procuré un truc particulier ou pas forcément, comme ça, assez symbolique, quoi.
Ouais, alors la barrière du top 100, c'est clair qu'on en fait toujours une montagne, c'est un truc de fou. C'est l'année 2007, alors à quel moment exactement, je ne pourrais pas te dire.
Ouais.
Mais c'est l'année 2007, l'année où j'ai gagné ce fameux tour à Tashkent en fin d'année, où j'avais fait vraiment une bonne saison. Et c'est vrai que tu entends toujours la barre du top 100, et je pense que ce qui est dur, c'est quand tu es genre pendant quelques mois ou quelques temps où tu restes 110, 115, tu vois, tu flirtes avec le top 100 et que tu fais presque une fixette dessus, quoi. Et moi, j'ai pas souvenir, donc je pense que ça. J'étais pas genre passé de 110 à 90, tu vois. Je pense que c'était l'année où j'ai gagné le tournoi et tout, donc ça a dû aller plus vite vers 60, tu vois, plutôt que.
Tashkent, d'ailleurs, au premier tour, tu bats
Sibulkova.
Ouais, Dominika Sibulkova, et t'envoies un tournoi un peu de l'espace en sortant la tête de en finale. Azarenka, qui était. Bon, elle était 35e, je crois, mais quand même. Il sort d'où ce titre ? T'es allé comment ?
De nulle part. Il sort de, tu sais, de la fraîcheur de quand t'es jeune, quoi, de l'insouciance, je pense.
Ouais.
J'étais arrivée, jouais Sibulkova qui venait de faire une finale quelque part, parce que je me souviens avoir joué tard. J'étais arrivée, j'avais attendu 2-3 jours qu'elle arrive d'un autre tournoi pour la jouer, donc j'avais gagné. Après il y avait eu et je me souviens, en fait, j'étais avec Stéphane à l'époque là-bas, et je me souviens, je jouais Azarenka en finale et j'avais l'impression que c'était une montagne, tu vois. Je me disais, waouh, Azarenka, c'est chaud quand même en finale, je vais me faire découper. Et il avait regardé ses stats et elle avait pas gagné une finale encore. Elle avait fait plein de finales, mais elle en avait pas gagné une. Et en fait, avant le match, il m'a dit, voilà, elle a jamais gagné une finale, tu vois. Genre, c'est elle qui stresse, quoi. Et je sais pas, cette phrase, en fait, ça m'a. Tu sais, tu te dis, bon, bah, ok, elle a des failles aussi, quoi. Et du coup, j'ai vraiment cru en mes chances et j'ai gagné en 2-7 et j'avais fait vraiment un super match, quoi. J'ai eu l'honneur d'avoir ce beau déguisement d'Ouzbek sur les photos, d'ailleurs, qui sont assez collecteurs. Et ouais, c'était mon premier titre, donc c'est ça le premier titre, forcément, tu t'en rappelles parce que c'est. Gagner un titre WTA, c'est dans une carrière, c'est top.
Que ça soit en Ouzbékistan, c'est quand même assez ouf.
Ouais, après, c'est pas le plus sexy d'aller gagner en Ouzbékistan, mais franchement, gagner un tournoi, tu le prends, peu importe l'endroit. Après, j'aurais préféré gagner Strasbourg ou gagner le Gaz de France à l'époque, tu vois, qui était un gros en France, mais voilà, tu sais, tu choisis pas. On a un circuit qui est tout le temps à droite à gauche. Bon, bah, c'est arrivé en Ouzbékistan. C'est pas l'endroit le plus sexy, mais ça reste un des meilleurs moments de ma carrière puisque c'est ma première victoire en WTA.
C'est bon, ça.
Ouais.
Ton coup le plus naturel, c'est lequel ?
C'est mon coup droit.
T'envoies des souches en coup droit ?
Je vois des liftons en couloir. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, là, j'avais. Bon, j'ai pas joué du tout pendant le confinement et tout ça. Et en fait, je me dis, tu vois, quand je me projette sur la reprise, j'ai l'impression que le seul coup que je serais capable de faire, c'est un coup droit, quoi. Parce que c'est vraiment le coup naturel pour moi. Et quand je coupe un moment où je suis blessée et que je retourne sur le terrain, tu vois, en fait, mon coup droit, il est naturel. Je réfléchis pas à ma technique ou il revient assez rapidement. Et par contre, en revers, j'ai l'impression que c'est, waouh, je me dis, c'est, j'ai l'impression de reconstruire les Lego, tu sais, de me dire, alors attends, là, je dois faire ça, 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 ça. Et ouais. De remettre tout. J'ai l'impression de récupérer mon verre en kit et de le remettre en ordre. Le service, c'est pas simple aussi, parce que c'est ce que tu perds le plus rapidement quand tu t'arrêtes au niveau de l'épaule et tout ça, quoi.
Et comment tu as la sensation d'avoir fait évoluer ton jeu pour t'installer et devenir de plus en plus solide avec les années?
En fait, je pense que c'est surtout physique. Je me suis vraiment créé un physique, tu vois, pour tenir longtemps, être endurante et pouvoir me dire que quand j'arrivais au troisième set, bah, je prenais le dessus sur la fille. Mes meilleurs résultats, enfin, j'ai aussi réussi à gagner sur dur, mais c'est vraiment sur terre que je me sens le mieux et ça faisait partie de mon jeu. À partir du moment où j'ai un jeu un peu où je suis pas forcément hyper, enfin, je monte pas au filet, je suis pas sur ma ligne, je suis plutôt 1m50 derrière ma ligne. Il a fallu que je développe ce côté physique, endurant, pour tenir dans la durée, pour tenir une saison complète et pour un peu user les filles, entre guillemets, quoi. Après, si j'avais dû vraiment changer quelque chose, c'était forcément de venir un peu plus vers l'avant, d'essayer de venir faire de plus en plus de volets liftés, venir. Ce que j'ai réussi à faire, en fait, l'année dernière sur Wimbledon, où j'ai jamais rien senti sur gazon, et je me suis dit, c'est peut-être la dernière année que je suis sur gazon. Et du coup, j'avais décidé de complètement changer de jeu, quoi. Limite, je faisais un service volé par jeu, dès que je pouvais, j'allais au filet, enfin, limite. Et je me suis éclatée, quoi. Et je me dis, ça, c'est un truc que peut-être j'aurais pu faire avant, mais bon, ben, voilà, ça reste putain, mais je l'aurais au moins fait une fois.
Ouais. Bah, lâcher prise mentalement.
Ouais, après, c'est dur de, tu sais, quand t'es habitué à un style de jeu, de complètement changer, tu sais pas vers quoi tu vas, tu te dis que, bah, ce que t'as, ça te convient déjà, t'es dans les 100, tu fais des bons résultats, et du coup, t'as un peu peur de perdre ton style de jeu, quoi.
Juste pour nous situer dans le temps, avec Stéphane Bellarbi, t'étais en coaching jusqu'à quel âge? Jusqu'à quelle année?
Jusqu'à 20 ans. Non, jusqu'à 22.
Donc, pour le 22 titre, ans. Le titre en Autriche, à Bad Gastein, vous étiez plus ensemble?
Si, on était ensemble, mais il n'était pas venu, j'étais partie seule, j'étais avec ma mère sur le tournoi. Mais il n'était pas avec moi, mais on était toujours ensemble.
Qu'est-ce que tu penses qui t'a apporté majoritairement dans ton approche du tennis, ton jeu, etc.?
M'a surtout apporté de croire en mes chances et de croire en moi à l'époque, parce que moi, j'ai toujours cette petite lacune de confiance en soi, mais lui croyait énormément en moi et me voyait faire de grandes choses à l'époque. Et en fait, il m'a vraiment poussé là-dessus et il m'a amené aussi une rigueur de travail à l'entraînement que lui avait. Et je pense qu'à la période où on était ensemble, ça m'a beaucoup servi parce que c'est un peu une période de formation que j'ai eue aussi juste avant avec Nicolas Copin, qui était assez, tu vois, assez strict, assez dur sur le terrain. Donc, en fait, ces deux enchaînements de coachs ont été vraiment super parce que ça m'a permis de comprendre. Enfin, tu vois, ils m'ont fait comprendre que le haut niveau, c'était difficile et qu'il fallait vraiment de la rigueur au quotidien pour espérer avoir une chance d'y arriver, quoi. Et je pense que là-dessus, ils m'ont aidé et Stéphane m'a vraiment, pour le coup, aidé sur le fait de croire en mes chances.
Donc après, t'es retourné avec Nico Copin à la Fédé pendant un petit moment, hein, c'est ça?
Ouais, pendant un an, je crois. Un groupe avec Julie Coin, ouais.
Ouais, je pensais plus longtemps que ça. Et après la Fédé, lorsque tu as construit ta structure privée, tu avais qui après la structure privée?
Alors, j'ai eu. Attends, il faut que je me rappelle. Parce que j'en ai eu beaucoup. J'ai beaucoup changé d'entraîneur. Ouais. J'ai eu Alexia de Chaume, avec qui c'était canon.
Ouais.
J'ai eu Julien Jean-Pierre pendant un an. Yes. Qui après. Il est reparti avec Azarenka en sparring. Ouais. Donc, on n'a pu faire qu'une année. J'ai eu Stéphane Charret qui entraîne Chloé Paquet aujourd'hui.
OK.
Et j'ai eu... Alors, après, j'ai J'étais avec donc Olivier Patience depuis 4 ans. Mais les deux premières années, j'étais en binôme avec... Donc, il y avait Olivier et Gonzalo Lopez. C'est un coach espagnol qui parle français, qui a coaché Medina Garrigues pendant très longtemps. Enfin, toute sa carrière, d'ailleurs. Ouais. Et donc, j'avais ce espèce de binôme parce que j'avais envie de m'ouvrir à une mentalité différente. J'avais surtout aussi, par rapport à mon jeu, envie de voir comment l'Espagne fonctionnait sur le style d'entraînement. Et ça m'a beaucoup... ça m'a vachement aidé. J'ai beaucoup apprécié cette période. Et voilà, donc depuis 4 ans, je suis avec Olivier Patience. Mais attends, je réfléchis en privé.
Bah, Loïc aussi, non ?
Non, Loïc, il ne m'a jamais entraîné. Il a toujours été hyper proche dans ma carrière, dans mes choix et tout ça. Mais on n'a jamais. On faisait une semaine de temps en temps sur les tournois où on faisait ensemble. Mais lui, il a toujours. Okay. On ne s'est jamais entraîné ensemble sur le truc-là, quoi.
Dans les grandes lignes, je pense qu'on comprend pourquoi tu t'es un peu affranchi de la Fédé pour créer ta structure privée, mais dans la mesure où financièrement, ça peut être hyper avantageux d'avoir ton coach payé, tout ça, pourquoi avoir pris cette décision de partir un peu toute seule et d'investir massivement dans ta carrière ?
Parce que, en fait, j'étais arrivée à une période de ma carrière où je me cherchais, enfin, je me cherchais. J'avais l'impression de ne plus être concernée par mon projet. J'ai l'impression d'être... en fait, quand tu es à la fédération, franchement, on a une fédé qui est top et c'est une aide incroyable de pouvoir avoir une structure financièrement. C'est juste un support énorme. Ouais. Mais arrivé à 22, 23 ans, je trouve que c'est important de prendre conscience. En fait, je me suis dit, le fait de financer ma structure, je vais me responsabiliser et ça va être vraiment mon projet, quoi. Et j'avais l'impression que c'est ce que j'avais besoin pour passer un autre cap. Je voulais prendre mes propres décisions, faire ma propre programmation, faire mes propres choix d'entraîneur, faire mes propres erreurs. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression de devoir me confronter à tout ça par moi-même, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision.
Ça t'a mis un gros coup de boost ?
Ouais, ça m'a mis un coup de boost. Après, ça fait peur, hein, parce que c'est la sécurité d'être dans cette fédé. Tu vois, t'as les trucs. Après, eux, maintenant, voilà, à partir de 22, 23 ans, si tu rentres dans les 100, ils estiment que tu dois aussi, ça fait partie de la formation avec la fédé. Ils te forment, ils t'accompagnent. Et à un moment donné, quand subvenir à tes besoins, entre guillemets, tu dois voler tes propres ailes, tu vois, ils sont pas là pour t'accompagner toute ta carrière non plus. Et là, j'ai ressenti ce moment-là et ça a été important, c'était un moment important pour moi dans ma carrière.
Tu dis au tout départ que ce qui t'animait, c'était de jouer par équipe et te sentir un peu soutenu. En 2008, tu as participé au JO de Pékin. Est-ce que tu as eu ce sentiment un peu de moins jouer que pour toi et comment tu as vécu cet événement assez fou, quoi ?
Bah, je l'ai surtout vécu. Alors, c'est marrant parce que quand je pense au jeu de Pékin, j'ai aucun souvenir de tennis.
Ok.
Non, mais en fait, ce que j'ai trouvé dément dans ces JO, c'est les rencontres que tu fais, c'est l'aventure humaine, le côté maillot d'équipe de France, la cérémonie d'ouverture, enfin tous les sports, tu vois, olympiques que tu regardes depuis que tu es tout petit, les JO. Le tennis, pour moi, c'est fantastique, les JO pour le tennis, mais tu vois, on a les grands chelems, on a plein de gros événements à côté, nous, qui sont pas à niveau égal, mais tu vois, qui sont des gros rendez-vous pour nous. Et en fait, de me retrouver aux JO avec tous ces gens, tous ces athlètes, c'était juste hallucinant, quoi. Donc c'est plus ça qui m'a marqué sur les JO que le tournoi en lui-même.
Yes. Roland, c'était donc en 2014. Tu fais ton meilleur résultat en grand chelem. Bon, il y a un peu de temps qui a passé. Hein. Là, on a fait un bond de 2008 à 2014. Déjà,
après, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. J'étais entre... j'étais entre 80, 100. C'était pas à ce moment-là. Je finissais les années à chaque fois à ce classement-là, quoi.
Et du coup, comment tu vivais saison après saison, ou avec le recul, tu dis, il ne se passait pas grand-chose, mais ça reste une vie assez dingue.
Non, mais quand tu dis, j'ai fait un bond, c'est parce que tu passes de... Ouais, en 2008, j'ai gagné le tournoi, donc forcément, on en parle. Après, en 2008, je suis aussi rentrée dans l'équipe de Fed Cup et tout. Il y a eu les Jeux, tu vois, il y a vraiment des choses à dire sur 2008. Après, l'objectif, c'est d'être dans les 100 pour être dans le tableau des grands chelems. Donc, c'est ce que j'ai réussi à maintenir après. Donc, c'est top.
Ouais. Tu as participé aussi à Londres en 2012 ou pas ?
Non.
Et Rio ?
Non, j'ai fait que Pékin. J'ai fait que Pékin.
D'accord. Du coup, on arrive à ce meilleur résultat en grand chelem à Roland. Mmh.
T'es 145e, donc t'as un peu redescendu. Pareil, enfin, ça vient d'où? En ayant fait pas mal d'épisodes avec des joueurs et des joueuses, très souvent, tu te rends compte que les meilleurs résultats viennent un peu de nulle part, ou les semaines d'avant, tu es un peu dans le trou, et puis là, tu fais une grosse bataille, tu sauves deux
Ouais.
balles de match, et finalement, t'enchaînes 10 victoires. Toi, tu l'as sorti d'où ce huitième?
Bah, il sort de nulle part, oui et non, parce qu'en fait, j'étais donc redescendue parce que j'étais blessée à l'épaule pendant 6 mois. J'ai galéré l'année d'avant, donc j'étais sortie des sangs, j'étais redescendue et tout. Et j'étais repartie sur les plus petits tournois. Donc, tu vois, j'avais gagné beaucoup de matchs avant d'arriver à Roland. Donc,
Ouais.
j'avais accumulé de la confiance, mais sur le circuit secondaire. Mais mine de rien, aujourd'hui, la différence entre une fille 100 ou 120 et une fille 60-80, il n'y en a quasiment pas. Donc,
Il a
tu vois,
aussi.
le fait d'arriver avec des matchs tu vois, dans les jambes, d'avoir gagné, d'avoir de la confiance, enfin, tu peux pas rêver mieux avant un grand chelem. Donc, ça n'arrivait pas de nulle part non plus. Après, le fait de faire huitième, oui, là, ça arrive de nulle part. Et j'avais reçu une wild card. Enfin, tu vois, c'était drôle parce qu'à l'époque, j'étais entraînée par Alexia De Chaume. Et avant de partir à Roland,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Non, elle me dit, donc on avait fait tous les tours avant où tu vois, c'était un peu la galère quand on revenait. Tu repars sur les petits, tu y allais, le couteau entre les dents, tu repars pour remonter dans les sangs et tout après une blessure. Elle m'a dit, ah, c'est drôle, tu vas. L'année où elle avait fait huitième en meilleur résultat, elle m'a dit, tiens, c'est drôle, tu vas au wildcard et tout. Moi, l'année où j'ai fait huitième, j'ai eu wildcard aussi, ce serait bien que tu essaies de me battre, tu vois. Et donc après, j'étais vendeur parce que je disais, ça, c'est ouf, on a fait huitième les deux en ayant wildcard. Enfin, tu vois, c'était assez le clin d'œil, c'était assez marrant. Et en fait, ça, c'était vraiment un des gros moments de ma carrière parce que, en tant que joueur français, bah, devenir joueur à Roland, c'est vraiment un des objectifs. Que tu te mets parce que bah, tu joues devant tes potes, ta famille, ton public, c'est le grand chelem qu'on a à la maison. Les premiers stages que tu fais quand tu es tout petit, tu arrives à Roland-Garros, t'as plein les yeux, quoi, c'est un truc de fou. Et en fait, j'avais eu des wildcards à Roland, j'avais fait des bons matchs et tout, mais j'avais pas vraiment passé le truc où je me disais, putain, ça y est, je l'ai fait mon beau Roland, quoi, tu vois, j'ai coché la case beau Roland. Et là, en fait, je l'ai eu, quoi, et du coup, après, tu vois, j'avais plus. Les années d'après, j'étais hyper excitée qu'il y ait Roland et j'avais plus ce stress de me dire il faut que je fasse un truc, il faut que j'arrive à tu vois, dire attends, j'ai une wildcard pour l'honorer ou je suis dans le tableau, il faut que je fasse quelque chose, c'est là, je suis chez moi, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Et ça, c'était une sensation, mais ça, c'était canon, quoi.
Trop bien. Est-ce que tu te souviens, il y a une année où tu as battu Alizé aussi, je crois, à Roland. Est-ce que tu
Ouais.
te souviens d'un match en particulier, de ton plus gros frisson?
Il y a eu le contre Alizé, c'était un match de ouf. On s'est fait une bataille de 3 heures, je sais pas combien. Pff, à la fin, on se tombe dans les bras, on est cuite. Enfin, et c'est Thierry Neubourg, ça fait partie des gros matchs de Roland. Après, il y en a eu un autre qui était fou, c'est quand j'ai battu Bartel pour aller en 8e, justement, sur le fameux court 1 qui a malheureusement été détruit cette année. Mais tu sais, ces fameux matchs où tu dois connaître de Roland. De fin de journée, tu vois, où le court 1, c'est vraiment les passionnés du tennis qui sont restés et tu as une ambiance de malade et je gagne, je crois, 7-5 au troisième, enfin, le truc, tu vois, à l'arrache, je
Non.
m'écroule sur le terrain, j'ai l'impression que j'avais gagné Roland.
C'est logique.
Et donc, ça, c'était ouais, ça, c'est un des les deux gros matchs avec Alizé qui m'ont marqué.
Frisson. Frisson garanti.
Ouais.
Tu me parlais de galères traversées avec Alexia De Chaume et j'ai complètement oublié de te demander quand tu étais sur le circuit un peu plus isolé, secondaire, les ITF, tout ça. Est-ce que tu te souviens de la pire galère que tu as pu vivre en tournoi?
La pire galère, c'est quand on partait sur les tournois de temps en temps avec l'académie. On ne pouvait pas avoir un suivi tout le temps parce qu'on était beaucoup. Donc, on se retrouvait avec Mandy, souvent avec Mandy, toutes les deux, où on partait en tournoi un peu seul, tu vois. Et tu te retrouves dans les hôtels un peu miteux. Tu as des moments un peu de solitude, quoi. Tu te dis, waouh, on aime le tennis, quoi. Et finalement, quand tu les fais sur le moment, ça passe nickel, tu vois, mais c'est après tu te dis, ah ouais, c'était chaud quand même. Mais je me rappelle le moment où, tu sais, où il fallait rentrer, il fallait modifier les billets, et puis à l'époque, tu n'avais pas les agences, les machins. On avait des espèces de stickers qu'on mettait sur nos billets pour modifier la date. Enfin, c'était des galères. Je me rappelle surtout de galères dans les aéroports ou tous ces moments de voyage, tu vois, où tu as l'impression que ça ne va pas en finir, quoi.
Est-ce que tu es du genre à péter des câbles parfois sur le cours ?
Ouais, alors ça. Ouais. Mais pas. Ça m'arrive rarement, du coup, quand ça m'arrive, les gens sont assez surpris. Je suis plus du genre à me fermer, à bouder un peu, tu vois, plutôt que tout casser. Mais j'ai eu des pétages de plomb, ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Je te confirme.
Tu te souviens du plus mythique ?
Le plus mythique, non, mais bah, j'en suis pas très fière parce que c'est, je m'énervais sur mon entraîneur, tu vois, donc c'est pas terrible. Ouais. C'est vraiment très moyen, quoi. Mais non, ça m'est arrivé de prendre avertissement au point de pénalité, d'avoir cassé un banc sur le terrain, tu vois, en tapant avec ma raquette. Et en fait, si tu t'énerves, t'es là, bam, et là, tu vois que t'as cassé le truc, t'as qu'une envie, c'est de te cacher, t'as trop la honte. Donc, non, les pétages de câbles, ouais, il y en a quelques-uns, mais après, ça fait partie du truc, hein. Je pense que même les gens qui sont très calmes, ça leur arrive de devenir un peu fou, ça rend fou, hein, le sport de haut niveau.
La plus grosse amende, c'est combien ?
Ma plus grosse amende, je crois que ça va être 1 500 $.
Ok.
C'est beaucoup, mais il y en a qui ont beaucoup plus, quoi.
Ouais.
Mais je me rappelle une fois, il y a pas si longtemps que ça, à Cincinnati. En fait, j'avais en allant, tu vois, vers ma chaise, j'avais jeté ma raquette sur mon sac. Et en fait, l'arbitre a cru que j'avais touché le ramasseur en jetant ma raquette, tu vois.
Ouais.
Et donc, la sortie du match, je suis convoquée. Donc, je prends un avertissement, tu vois, je comprends pas trop, mais je suis dans mon match, je fais pas gaffe. Et je suis convoquée à la sortie du match dans le bureau du juge arbitre en me disant tu vas prendre une énorme amende, tu aurais pu être disqualifiée et tout. Je dis ah bon, mais je comprends pas, quoi, tu vois. Et il me dit oui, t'as touché le ramasseur, je sais pas quoi, t'aurais pu être disqualifiée. Je dis non, franchement. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que c'était un cours télévisé. Donc ils ont regardé les images et en fait, j'avais pas touché le ramasseur, donc ils ont retiré mon truc. Mais sinon, je prenais je sais plus combien d'amendes, c'était un truc de fou.
Wow, chaud. Ouais. Chaud les fesses. Le tournoi que tu préfères en dehors de la France ?
Acapulco.
Ouais.
Tournoi. Hein ?
Il revient souvent celui-là.
Ouais, il revient souvent. Bah, c'est un des tournois les plus mythiques. Enfin, niveau endroit, c'est au Mexique. Le tournoi est dans l'hôtel, au bord de la plage. Ça joue le soir. Il y a une ambiance hallucinante. Mais je dirais le Acapulco à l'époque où c'était sur terre battue. Pas maintenant qu'il est sur dur, parce que c'est plus ambiance américain et c'est un peu moins sympa que mode Amérique du Sud, tu vois, un peu plus festif. Donc ça, c'est vraiment un des tournois vraiment top, quoi. Après, les grands chelems, je les trouve fantastiques. Tu vois, Wim, l'Australie, j'ai jamais vraiment bien joué, mais c'est incroyable. L'US, j'adore. On a quand même 4 grands chelems qui sont canons, quoi.
La joueuse avec laquelle tu te marres le plus, c'est qui ?
La joueuse avec laquelle je me suis vraiment beaucoup marrée, ça a été Julie Coin.
Ouais.
Avec qui j'ai partagé la chambre. Tu vois, souvent sur les tournois, j'étais plutôt tendance à prendre ma chambre seule et tout. Et elle aussi, à chaque fois qu'on était sur le même tournoi, on se disait, bon, on se fout ensemble, c'est bon. Et on se marrait, on a fait. Qu'est-ce qu'on s'est marré ? Je me suis marrée beaucoup avec Émilie Loi, avec Amélie Mauresmo. C'est vraiment la génération. J'ai eu la chance de connaître cette génération avec Nat Dechi et tout, et d'être proche d'elle. Donc ça a été vraiment des super moments, quoi.
On fait un épisode cet après-midi avec Julie. Est-ce que tu aurais une question à lui glisser ?
Bah, tu peux lui demander, quand elle a joué Molly en Australie, qu'est-ce qu'ont fait les spectateurs pendant l'échauffement ?
Ok. La joueuse la plus chiante à jouer en termes de comportement, enfin vraiment la joueuse imblairable, quoi. Est-ce qu'il y en a une ?
Il y en a beaucoup. Hein. Pas une, il y en a. Bah non, mais tu vois, moi, par exemple, enfin, tout le monde le sait, mais Sharapova, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'elle est à jouer, elle fait des caisses, c'est insupportable.
Bon, alors pas de regret.
Pour parler des gens, vraiment connus, quoi. Mais après, t'as Niculescu, une joueuse roumaine qui fait que pleurer. Au-delà de son jeu qui est chiant avec ses slices de coup droit, elle fait que pleurnicher, elle se plaindre, râler, contester les balles. Enfin, tu vois, c'est relou, quoi.
Sympa. Ouais. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes vécues avec, je sais pas, Serena ou le top 3 masculin, Roger, Djoko, Rafa, un peu en dehors du cours, qui, qui les rend un peu plus humains.
Roger, j'ai pas trop de contact avec lui. Mais ce que j'adore avec Rafa, c'est qu'il a, même tu te crois, t'as l'impression, tu sais que c'est Rafa. Et lui, en fait, il a toujours un bonjour, salut, ça va, tu vas te dire, et là, tu es là, on me connaît en fait. On ne connaît pas, je te rassure. Mais non, mais tu vois, il a toujours un mot sympa et c'est plutôt agréable. Quoi.
Énorme. Pour revenir à ta carrière, en 2018, tu es pas loin d'arrêter, c'est ça, non?
Ouais.
Et qu'est-ce qui, en fait, t'as lâché prise? Qu'est-ce qui s'est passé pour t'envoyer deux titres?
Non, mais ouais. Bah, en fait, en 2018, en début de saison, je jouais pas bien, j'avais plus trop envie. J'avais passé la trentaine et tout. Je me suis dit, voilà, y a un moment où ça doit s'arrêter. Est-ce que c'est pas ce moment-là? Tu vois, j'avais moins d'envie et j'avais pas envie de retourner sur les plus petits tournois. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment, je sais pas. Enfin, je me posais vraiment des questions, mais j'avais quand même l'impression de ce sentiment au fond que j'étais pas encore allée au bout du truc.
Ouais.
Mais bon, en même temps, j'avais pas envie. Je me suis dit, c'est pour finir en étant grotesque, c'est pas la peine, quoi, tu vois. Je me posais vraiment des grosses questions. Et c'était l'année où, en fait, on avait la Fed Cup où on était, où Caroline Garcia voulait pas jouer et Alizé, elle avait son truc avec sa suspension en attente là, donc elle pouvait pas être dispo pour la Fed Cup, donc on se retrouvait avec on était avec Christina Mlanović et Amandines pour essayer de défendre le pays en Fed Cup. C'était vraiment une année pas simple et finalement qui au final a été une belle année parce qu'on a des souvenirs de dingue. Mais je me rappelle, donc c'était sur la deuxième rencontre où je me suis dit, bon, là, c'est bon, je fais la saison sur Terre, si j'avance pas sur Terre, c'est que je suis fini, quoi, tu vois. La Terre, c'est là où je joue mieux. Si j'arrive à rien sur Terre, c'est que je ne cherche plus à rien, entre guillemets.
On plie les goals.
Oui, on plie les goals. Et en fait, là, donc j'ai été prise dans pour la demi-finale et tout. Et Yann, il me dit, ouais, c'était Yannick Noah, le capitaine à l'époque, il me dit, bon, donc tu es sélectionné pour l'équipe et tout, rendez-vous, machin, à telle date. Et là, je lui envoie un truc en lui disant, ok, bah, je serai là, tu vois, je suis trop contente d'être sélectionné, mais voilà, sache que. En gros, je joue pas un gramme et je suis pas au top, quoi, tu vois.
Ouais.
Et tu vois, il m'a pas répondu à mon message. J'ai envoyé un beau pavé. Mais je le retrouvais genre 48 heures après et j'ai senti, tu sais, le mec qui te prend là et qui te dit, alors toi, ma cocotte, on va se faire 10 jours d'entraînement, mais tu vas te lâcher. Parce que tu vois, il m'a dit, en gros, il m'a dit, attends, ok, t'en as marre, machin, mais on va kiffer, on va passer 10 jours ensemble, tu vas jouer pour ton pays, on va kiffer, et tu verras ce que ça fait après. Tu vois, essaye de lâcher, de pas te prendre la tête, de profiter de ce moment. Enfin, tu vois, il était que dans ce truc-là, quoi. Le kiff, on profite, on va être ensemble, il va y avoir ta famille, tu joues en France, enfin, tu vois, ça va être dément, tu vas jouer sur ta surface et tout. Enfin, tu vois, il m'a boosté à mort.
C'était génial.
Les entraînements, il me dit, au début, il me dit, tu tapes de toutes tes forces et tout. J'étais là, what? De toutes mes forces? Ouais, je m'en fous, je tu lâches. Putain, mais il est fou, quoi, tu vois. Et puis finalement, j'ai fait deux gros matchs. On a perdu la rencontre, mais j'ai fait deux gros matchs sur le week-end. Et la semaine d'après, je devais pas aller à Istanbul. J'étais dans les qualifs au début, donc je pouvais pas le jouer. Et un dernier moment dans le week-end, je reçois un mail de Adouta qui me dit, bah, t'es rentré dans le tableau final, est-ce que tu veux jouer? Et là, regarde Thierry Champion, l'entraîneur, je lui dis, je fais quoi? Putain, après les Fed Cup, on est cuit à chaque fois. Il me dit, tu joues vraiment bien, franchement, vas-y, on s'en fout, tu vois. Je dis, mais je suis toute seule, Olivier, il peut pas venir. Il y avait ma mère et mes parents, ils étaient là le week-end. Il regarde ma mère, il lui dit, tu fais quoi la semaine prochaine? Elle me dit, bah, rien. Et il lui dit, bah, tu pars avec ta fille à Istanbul? Alors ma mère, ah, bah ouais, grave. Du coup, on est parti directement de Marseille à Istanbul avec ma mère. Et donc, j'étais avec ma mère là-bas et j'ai gagné le tournoi. Donc, en fait, c'était 15 jours de folie parce que. Toute la semaine, tu vois, on sortait de la Fed Cup et tout le monde continuait à écrire dans le groupe, tout le monde suivait, tout le monde savait que j'avais envie d'arrêter et tout le monde était hyper heureux pour moi de me voir gagner et tout. Donc c'était juste, je recevais tous les jours mais plein de d'amour et plein de kiff, quoi. C'était trop.
Et de l'extérieur, Yannick, on a tous cette image assez successful déjà, plus 91 la Coupe Davis. Toi qui as vécu son coaching, ça ressemble à quoi?
Bah, ça ressemble à un mec qui a un charisme de dingue, qui a envie de donner, quand il est intéressé par le projet, il est à fond, et quand il décide de donner, bah, c'est juste fantastique parce que c'est un mec qui a des valeurs de ouf et qui te porte, quoi. Il t'emmène au bout du monde, lui. Donc c'est vraiment sa grande force, et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est cette espèce de partage que tu as avec lui qui est fantastique.
Ouais. Derrière, tu t'envoies Québec City aussi.
Ouais, Québec City en fin d'année. Pareil, improbable. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire sur ce tournoi? C'est du plastique. T'as pas du tout le jeu adapté. Bah, ok, les gars. Bah, tu sais, comme si t'aimais le challenge, quoi.
Pourquoi tu t'étais inscrite si c'est une surface qui te convient pas forcément?
Bah, je savais pas au début quand je me suis inscrite. Je connaissais pas le tournoi. Je savais pas que c'était une surface qui allait à 10 000. Et puis finalement, il y avait pas grand-chose. C'était après l'US et j'avais décidé de rester. Donc, je m'étais inscrite. J'avais fait un choix de programmation différent pour une année.
C'est ce que tu évoquais avec Antoine dans l'échange, que chez les femmes, c'est assez incroyable. Il n'y a pas forcément des tournois toutes les semaines. Du coup, tu vas un peu là où tu peux, quoi.
Ouais, la programmation, elle est compliquée. Au départ, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait beaucoup plus de sens, je dirais, dans la programmation. Il y avait des tournées par continent qui s'enchaînaient. Aujourd'hui, on voit vraiment tout et n'importe quoi. On voit des tournées en Asie une semaine avant un grand chelem. Enfin, il y a vraiment des trucs un peu incohérents. Donc, du coup, bah, tu es un peu obligé de t'adapter, de voyager beaucoup, de subir des vols, des décalages horaires et tout ça, qui sont assez fatigants tout au long de l'année. Mais ouais, je pense que c'est le marché qui est différent. C'est, ouais, économiquement, on va là où aussi ça marche et là où c'est possible. Donc, on suit un peu tout ça. Et du coup, ça fait un programme assez décousu au niveau des voyages et des endroits, quoi.
Alizé Cornet me disait que la tournée en Asie était... la plus mal aimée, on va dire, des Français, des Européens, peut-être en règle générale. Et pourquoi?
Bah, elle est dure déjà parce qu'elle est en fin d'année. Donc, tu viens de te faire une année de voyage et on te demande de... Enfin, on te demande. C'est pas non plus le bagne, hein, mais tu dois repartir en Asie. En général, c'est beaucoup de tournois. Donc, c'est genre 4-5 semaines, 3-4 semaines. Tu vois, tu choisis en fonction de toi ce que tu joues. Mais c'est difficile parce que bah, c'est une culture complètement différente, c'est une alimentation complètement différente. Enfin, tu vois, tu sors complètement de ce que tu as l'habitude. Et du coup, d'un moment, tu n'as juste qu'une envie, c'est de rentrer chez toi parce que c'est vraiment complètement, complètement différent de notre style de vie. Et bah, une semaine, deux semaines, c'est bien, mais au bout de trois semaines, ça commence à être difficile d'être en Chine ou en Asie.
Ouais.
Ouais, après, il y en a qui aiment, mais c'est vrai que nous, en général, les Français, on est... Les Européens, les moyens, quoi.
Ça rechigne un peu à la tâche.
Ça rechigne, ouais.
Ça balance un peu, du coup, en Asie ou pas? Ça balance des matchs?
Oh, balance, non, parce que, oui, ça doit sûrement arriver, mais non, parce que tu, enfin, je veux dire, t'es là-bas, tu sais pourquoi t'es là-bas. Une fois que t'es sur le terrain, ça reste un match et tu t'oublies que t'es en Asie, mais peut-être sur une fin de tournée en Asie, le dernier tournoi, t'as peut-être envie de rentrer un peu plus tôt. Mais après, c'est en même temps des gros tournois là-bas, tu vois, donc t'es obligé, t'es pris dans le truc, tu te bats parce que c'est des tournois qui comptent avec beaucoup de points, beaucoup de prize money. Donc c'est, et puis les conditions, c'est l'Asie, c'est différent, mais les hôtels sont top. Les clubs, c'est immense, des grands terrains. Enfin, tu vois, les conditions sont vraiment superbes, quoi.
Ouais. Bah, du coup, tu as plutôt bien fait de t'accrocher en 2018, au moment où tu hésitais à
rater. Ouais, ouais, c'est clair.
Parce qu'on arrive à la Coupe Davis, carton jaune, la Fed Cup de...
Rouge, même.
double carton d'entrée. Putain, il n'y a pas de tolérance zéro.
Ah ouais, non, il n'y en a aucune là-dessus.
J'ai fait la même avec Alizé, putain, j'ai pris cher. À quel point tu es reconnaissante auprès de Yann d'être venu te chercher du coup pour cette sélection en 2018 qui t'a permis de tenir jusqu'au titre 2019?
T'as souvent des grosses rencontres dans ta carrière, lui il en fait partie, quoi. T'as souvent une ou deux personnes dans ta carrière qui ont marqué ta carrière, lui il fait clairement partie de ces personnes là et il m'a permis de revivre 2 ans de circuit et finalement de bonheur parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite et de regagner des titres, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Donc il m'a redonné 2 ans de kiff sur mes tournois et surtout il m'a permis d'aller au bout de mon projet que j'avais depuis que je suis toute petite. Et là, si aujourd'hui je devais arrêter, je sais que je suis allée au bout, ce que je ressentais pas il y a 2 ans.
Ouais.
Donc je pense que non seulement il m'a relancé au niveau tennis, mais pour une carrière et pour une suite de vie, je pense que c'est hyper important d'avoir été au bout de son truc. Et lui, il m'a permis de faire ça. Donc c'est.
Si tu devais garder 4 images de ce titre, ce serait lesquelles?
Alors, 4 images. Donc, la première, ce sera sur le... Oh, attends, 2, 3, 4. Bah, la première image que je vais garder, c'est le retour de Caro qui était pour nous improbable au début parce qu'on partait vraiment de loin avec toutes les histoires et qui s'étaient passées. La revoir en équipe de France, on s'est souvent dit avec Alizé, c'est fou qu'elle soit là, tu sais, ça paraissait irréel, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une des premières images du début de camp, parce qu'en fait, on a gagné au bout, tu te dis c'est fantastique, mais on est vraiment parti d'un truc où tu te dis waouh, si on arrive à gagner là, ça va être tu vois. Donc il y a cette première étape où il y a le retour de Caro, et finalement enfin, on était hyper contents de la revoir, et ça a été compliqué, tu vois, il a fallu discuter, s'expliquer, il y a pas mal d'incompréhensions les unes envers les autres, donc remettre tout à plat, je pense que c'était vraiment important, et c'est une grosse image de cette campagne.
Ouais.
La deuxième image que moi je vais garder plus perso, c'est parce que ça m'a fait trop plaisir, c'est de voir Alizé gagner son match à Liège, parce que voilà, comme elle le dit elle-même, son rapport avec la Fed Cup, il a été plutôt compliqué, elle a eu des matchs difficiles, elle s'est tendue, elle a eu des galères de tension, je dirais, dans cette rencontre. Et là, de la voir battre Mertens en faisant un super match et de la voir aussi heureuse à la fin, c'était canon. La troisième, c'est moi, ma victoire à Rouen contre Bégou à 1-2, le moment où Bennett... Enfin, ce week-end, il était ouf parce que, tu vois, on est le samedi soir, on a un choix à faire sur la sélection du dimanche et on se retrouve... d'habitude, on est en one-to-one avec le capitaine sur la discussion du lendemain, sur ce qu'il voit, etc. Et là, en fait, on a une discussion à trois avec Alizé, Julien et moi, pour le choix du match que j'ai joué. Il avait il hésitait entre elle et moi. Et on a une espèce de discussion, tu sais, hyper ouverte et hyper honnête. Et ça a été un des moments très forts de cette campagne aussi, parce que ça m'a permis, moi, le lendemain, de me sentir hyper soutenue par mon staff, par Pierre, par toute l'équipe. Et du coup, le matin, quand je me suis réveillée, je savais que ça allait bien se passer. Tu sais, j'ai ressenti ça genre une fois dans ma carrière, mais tu sais, le jour où tu te dis, c'est mort, il n'y a pas moyen que ça se passe pas bien, en fait. Tu refuses le truc, tu sais, t'es là, mais. Et j'ai réussi à gagner ce match, à remettre l'équipe à 2-2. Derrière, les filles font un double décisif de ouf. Je partage ça avec Julien Benneto, qui est un de mes potes. Enfin, tu vois, il y avait tout qui était réuni, quoi. C'était juste, mais la folie. J'avais mes potes, j'avais mes parents, j'avais ma famille. Enfin, j'avais tout. Il y avait Olive, Patience qui était là. Enfin, tu vois. Enfin, tout était réuni pour que ça marche, et ça a marché. Donc, c'est canon. Et après, si je dois en garder une dernière, c'est forcément la victoire, finale, quand les filles gagnent cette espèce de point, de double décisif, irréel, et qu'on est tous là à se dire, mais putain, c'est le moment entre, oui, à la balle de match, où tout le monde se regarde sur le banc en disant, mais ça va se passer, quoi, on va la gagner, cette putain de Fed Cup. Et le moment où tout le monde court, on se rue sur les filles, on se couche tous sur elles, enfin, tu vois, tu réfléchis plus à rien, quoi. Et voilà, et ce moment où tu lèves la coupe, qui est juste hallucinant, à l'autre bout du monde.
Ah, c'est monstrueux. Quel kiff.
Ouais. C'était canon.
Est-ce que vous avez fait la plus grosse fiesta de ta carrière sur le circuit après ça?
Non. On a fait une fiesta, mais en fait, si nous, on est pénalisés lourdement par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois, on finit le dimanche soir.
Ouais.
Et du coup, dans chaque ville où on est, si tu veux, le dimanche soir, pour trouver un truc de folie, c'est assez calme, quoi. Mais en fait, je crois aussi qu'on n'avait pas forcément... Enfin, on avait surtout envie de se retrouver, nous tous aussi. Tu vois, c'est la fin d'un... C'était l'impression que tu fermes le livre, quoi. Et on avait envie de vraiment profiter de ce moment à nous. Donc, on s'est retrouvés à l'hôtel, dans le salon qu'on avait tous ensemble. On a mis de la musique, on a bu des coups, on a dîné tous ensemble. On s'est marré. Il y avait tous ceux qui avaient fait le voyage en Australie. Enfin, il n'y avait pas les supporters, mais quelques familles. Il y avait ceux de la télé qui étaient venus, nos potes et tout. Enfin, c'était vraiment un petit comité, mais vraiment sympa. Et c'était ce qu'il fallait pour savourer ce moment. Et puis après, on avait le temps de fêter, rentrer en France avec tout le monde.
Énorme. Et du coup, ta plus grosse fiesta sur le circuit, c'est où? C'est laquelle?
Ma plus grosse fiesta sur le circuit, ça a été au Mexique. Il y en a eu des très belles, donc sur le tournoi d'Acapulco, mais j'en ai fait une énorme sur un tournoi, un challenger au Mexique. C'était improbable. Où j'ai découvert la tequila,
le mezcal.
Ouais, et le truc où tu te dis ouais, c'est cool, c'est bon, et d'un coup bam. Là tu comprends plus ce qui se passe, quoi. Non, il y en a deux, trois. Après, à New York, on a fait deux, trois belles soirées aussi. Mais tu vois, en général, on reste quand même sage, quoi.
Est-ce que tu as été du genre à découvrir un peu les merveilles qu'il pouvait y avoir dans les villes où tu as joué au tennis?
Ouais, alors ça, je l'ai fait depuis. En fait, quand j'ai senti que ça pouvait être la fin de ma carrière, je me suis dit que sur chaque endroit où j'allais, il y avait un truc à faire, je m'obligerais à le faire. Enfin, parce que de temps en temps, tu as un peu la flemme. Tu te dis, oh non, je reviendrai de toute façon. Enfin, tu vois, tu le fais pas. Et du coup, je me suis. Enfin, tu vois, j'ai été faire la muraille de Chine, j'ai fait la Cité Interdite. Je fais tous ces trucs un peu, ces lieux mythiques et que je regarde pas du tout. Tu vois, quand la dernière fois, je suis allée à New York, souvent on est à New York et on prend pas le temps de visiter. J'avais juste fait la Statue de la Liberté à l'époque avec Julie. Voilà, et là, j'avais une année, mes parents et ma famille étaient venus, donc j'ai tout fait. Tu vois, on était monté à l'Empire State Building. Enfin, j'ai tout fait. J'ai pris le vélo, j'ai fait tout le tour de New York. Enfin, des trucs qu'il faut faire et que finalement, tu prends pas le temps de faire quand tu es en tournoi et que je suis très contente d'avoir fait.
Bon, Pauline, il est temps de passer aux aveux. L'Élysée, il s'est passé quoi?
Personne ne saura jamais.
Ah non!
Non, je peux pas, j'ai pas le droit de le dire. J'ai été interdit d'en parler.
Ah, je suis
on ne saura jamais.
Je suis triste. Je suis triste.
Ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est juste que c'est impossible. Non, mais rien de ça va. Il n'y avait pas. Il y a rien de. Tu serais déçu.
En 2019, tu as aussi fait un crochet par l'Académie à Bolitieri l'année dernière. Tu as rencontré Nick,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais, exact.
Quand on est.
Tu as bien révisé tes fiches. Hein.
Ah, bah attends, et on est là. Hein. Quand, ouais. Quand on est un peu jeune, je pense que ça peut impressionner de rencontrer Nick Bolitieri, tout ça. Et...
Ouais, bah c'est un mythe, tu vois, j'entendais tout le temps parler Nick Bolitieri. J'avais rejoint Thierry Champion et sa femme et ses enfants qui étaient là-bas en vacances et qui faisaient un stage pour les petits. Ouais. Et du coup, je me suis entraînée là-bas avec plein de jeunes de l'académie, plein de jeunes espoirs américains et tout, donc c'était vachement sympa. Et bah, un jour, on ne savait pas s'il allait venir ou pas, et il a débarqué, mais c'était fantastique. Tu vois, il est tout vieux maintenant et il a toujours ce charisme de dingue quand il arrive, c'est Nick, quoi. Et là, il te dit, genre, bouge bien sur le terrain ou tu sais, tu sors une phrase à l'américaine. Donc, c'est assez marrant, quoi.
C'est bon, ça. Pendant ta carrière, à ce jour, tu as gagné 3 709 571 $ de prize.
Ok. Ouais.
Auquel on sait il faut enlever 30% de taxes, etc., etc. Comme tu as pas mal.
Ouais, je te confirme, ils ne sont pas sur mon compte, là.
Ouais. Comme tu as pas mal géré ta carrière, ta structure perso, combien te coûtait une saison en moyenne, tu sais, ou
comment? Ouais, je sais à peu près, ça coûte, moi ça me coûtait 60 000 euros à peu près.
D'accord.
60 000 euros, 60, 70 000 euros avec les voyages. En sachant que moi j'ai pas Olive, il est tout le temps avec moi à Paris, il m'entraîne tout le temps. Mais sur les tournois, on fait un certain nombre de semaines, ce qui bosse un peu aussi dans un club à côté. Lui, pareil, il a arrêté sa carrière, il voulait moins voyager. Donc, tu vois, il m'a dit, je pars avec toi, toi, c'est top et tout, mais il voulait pas partir tout le temps. Donc, c'est le guide qu'on a trouvé et c'est super. Et le fait de finir ma carrière avec lui, je suis hyper heureuse parce que c'est avant tout un pote. D'avoir cette relation avec son entraîneur, je trouve ça hyper cool, cette complicité, c'est top. Donc, et on bosse hyper bien et il m'a aidé dans des moments de doute, là, ces dernières années qui ont été, il a été hyper important dans ma carrière, donc c'est cool.
Il t'a aidé à quel dans les grandes lignes, à quel niveau sur ces dernières années?
Bah déjà, il m'a aidé, il a essayé de faire évoluer mon jeu, tu vois, à mon âge, avec ma tête dure, c'était pas simple. Et tu vois, il m'a amené à faire plus de slice en revers, enfin plein de petits trucs sur mon jeu, tu vois. Au début, je te dis, oh non, et puis finalement, tu vois, finalement, j'y viens. Et ça a été beaucoup, tu vois, le fait de changer de jeu sur gazon, ça a été aussi une discussion avec lui, enfin, tu vois, une approche un peu différente. Et surtout, bah, il me donne l'envie de continuer à voyager, à partir sur les tournois, parce que comme on le partage ensemble, moi j'ai toujours aimé ma carrière, parce que je n'ai pas que pour moi, tu vois, j'ai toujours aimé le partager avec quelqu'un, en fait, et là, d'être avec lui, bah, ça me donne du boost.
Maintenant que tu as le sentiment accompli, tu as envie de quoi pour la suite?
Voilà, j'ai hâte de voir de quoi je suis capable sur l'après-tennis, parce que ça fait... plus de 20 ans que je suis dans le tennis et j'ai envie de me tester sur d'autres challenges, de voir de quoi je suis capable, de me poser aussi un peu, de voir ce que c'est d'avoir une vie un peu plus sans les valises, sans les hôtels, un peu plus posée. Donc voilà, ça va être la suite là dans pas longtemps, donc ça va être aussi un gros challenge, mais je pense que c'est le bon moment pour moi de passer à autre chose. Et voilà.
T'as deux, trois projets?
Ouais, j'ai deux, trois projets, mais ben, avec le Covid et le confinement, c'est un peu entre parenthèses, mais dès qu'on va sortir de tout ça, je pense que ça reprendra, quoi.
Yes. Peut-être dans la pâtisserie, je crois, non? Tu as fait un live avec l'INAC,
Ouais, j'ai fait. Non, mais c'est drôle. Mais non, mais je suis complètement nulle en cuisine. Et en fait, je me suis mis dans ce truc de l'INAC et on le fait tous les soirs, on se marre. Et donc, c'est vraiment c'est sympa parce que du coup, ils te donnent des idées. Au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire. Et surtout, c'est marrant parce que j'ai découvert plein de trucs et j'ai découvert que j'aimais ça surtout. Et moi, j'ai un frère qui est pâtissier, donc c'était cool de pouvoir un peu comprendre son métier. Et
Ouais.
du coup, ça le fait marrer, lui, de me voir faire des trucs en sachant que je partais de quasiment zéro, quoi.
Yes, c'est bon ça. Aujourd'hui, tu es avec le coach sportif. Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Qu'est-ce que tu penses des tenues? Qu'est-ce que tu ressens quand tu ouvres le carton? Tout ça, c'est plutôt stylé comme marque, non?
Ouais, c'est une marque que j'adore. J'étais hyper contente de pouvoir signer avec eux parce que c'est pour moi c'est vraiment une marque. Je trouve que j'aimais être associée à cette marque. Je trouve que ça, c'est une marque qui a beaucoup de valeur. C'est une marque vraiment française qui a marqué plein d'événements dans le sport aussi. Et je suis hyper fière de pouvoir jouer pour le Coq, quoi.
Yes, c'est bon. T'es toujours un peu comme Euro Disney quand tu ouvres un carton et que tu découvres les
Ouais,
tenues.
j'adore. Je suis comme une dingue.
Voilà. Pour terminer, Pauline, j'ai deux, trois questions de fin qui sont communes à toutes les interviews.
Ouais.
Quel est le plus gros regret de ta carrière?
De ne pas avoir rencontré certaines personnes plus tôt.
Comme qui?
Bah, comme Yannick, comme Yannick surtout.
Et le plus bel accomplissement pour faire la balance?
Le plus bel accomplissement, d'avoir réussi, même si tout le monde me dit peut-être que j'aurais pu faire mieux, d'avoir gagné 4 titres, d'avoir fait 8e à Roland, d'avoir réussi à accomplir mes rêves.
Est-ce que tu penses que tu as déjà pris le boulard?
Non, parce que j'ai des frères et des potes qui m'ont toujours dit le jour où tu prends le boulard, t'en prends une.
C'est concret, ça.
Ouais, donc du coup, si tu veux, je me suis jamais aventurée à avoir le boulard. Non, mais le fait d'avoir, tu vois, d'avoir des potes et une famille qui est hors tennis, c'était hyper important pour moi d'avoir un équilibre à côté pour justement pas perdre les racines, de pas oublier d'où je viens en fait. Et ça a toujours été les mots de ma famille, de mes parents, de mes frères. Tu vois, ils ont toujours été hyper fiers de ce que je faisais, mais j'aimais me retrouver dans un endroit différent où je suis pas la joueuse de tennis.
Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne?
Je me remets en question tous les jours.
L'expérience la plus incroyable de ta vie, Pauline?
L'expérience la plus incroyable de ma vie dans le tennis?
Dans ta vie globale, ça peut être le tennis, ça peut être autre chose en dehors.
Ouais, bah sur le tennis, ça va être les Jeux Olympiques de Pékin.
Ah ouais.
Ouais.
Comment c'était d'être en couple du coup avec un coach ou enfin quelqu'un vraiment du monde du tennis?
Bah, c'était super parce que c'est pas facile quand tu es joueur et que tu pars tout le temps d'être avec quelqu'un. Enfin, faut comprendre ce style de vie. Donc ça a été comment dire? Sais pas trop comment tourner
Ça a été un
En
moyen
fait,
d'éviter les échanges, quoi, non? Parce que
de quoi?
vous.
Ouais, bah c'est super d'avoir quelqu'un qui est du milieu pour discuter de tous les doutes. Tu vois, moi j'en ai beaucoup, donc ça a été super. Après, quand au début on était ensemble, tu vois, il venait d'entraîner Amélie, d'entraîner Bennett et tout, j'avais un énorme complexe d'infériorité. Tu vois, j'avais l'impression que c'était, tu vois, je voulais prouver vachement et tout ça. Donc ça, c'était un peu dur au début, mais après, non, ça a été un plus dans toute ma carrière.
Tu as dit qu'en niveau sucré, c'était moyen, mais salé, quel est le plat que tu maîtrises le mieux?
Non, attends, je suis bien sucrée. Hein.
Ah, pardon, my
Ah
bad.
ouais, non, j'ai progressé. Je ne savais pas faire grand-chose, mais j'ai beaucoup progressé. Je peux te faire des beaux tiramisu, des beaux crumbles aux pommes. Je fais un magnifique coulant au chocolat. Attends, ça va. Je te fais des cakes de fou.
Et alors, salé, le
En
mieux?
salé, écoute, après, avec Lignac, ce n'est pas des plats, tu vois, c'est des trucs assez simples, mais les lasagnes qu'on a fait avec lui, c'était dément.
Génial. Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, nous recommanderais-tu un livre?
Non, alors je suis beaucoup moins bouquin qu'Alizée. Je suis plus série et film. Donc, les séries, là on est à fond Michael Jordan. Ouais, on a regardé en film, j'ai regardé le film turc, là, impossible de le prononcer, mais c'était canon.
Ouais.
Voilà, c'est deux trucs qui m'ont marqué sur ce confinement.
Le concert le plus ouf auquel.
Casa de Papel.
Classique.
Le concert le plus ouf que j'ai fait, c'est le concert de M en fin d'année dernière.
Où ça ?
À Bercy.
Trop bon ça.
Ouais, c'était canon.
Quels seraient les mots de la Pauline d'aujourd'hui, sage et avisée, à la Pauline de 17-18 ans, un peu plus dispersée, pour essayer de la driver, la coacher?
Bah, ce serait de lui dire de vraiment croire en elle et de ne pas se laisser influencer par les choses extérieures.
Ok. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien?
Être sérieux sans se prendre au sérieux.
Est-ce qu'il y a une personne que tu me recommandes pour ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir?
Julien Beneteau.
Yes, trop bien, trop cool. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pauline, plus dingue pour terminer?
Pour terminer, bah de pouvoir refaire un tournoi avant pour terminer ma carrière, pour pouvoir faire Roland 2020, s'il vous plaît.
Yes, merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, c'était très chouette.
Avec plaisir, Stéphane.
Salut,
ça roule. Ciao, merci beaucoup. Bye.
Merci d'avoir suivi cet épisode avec Pauline jusqu'au bout. Allez lui dire un petit mot sur Insta, ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Mettez-nous un commentaire sympa, j'adore vous lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail. Donc de le faire connaître à d'autres personnes, tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous. Donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like si t'es sur YouTube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, Titoff et Momoludien qui nous écrit « Beau travail ». Bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs, t'arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail, hâte d'écouter les prochains. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités, ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous en description. Et tu as aussi accès à notre 13e masterclass avec Alain Cassaigne, un des premiers joueurs négatifs français, entraîneur depuis toujours qui a traduit la Bible du tennis, le best-seller vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et réédité 14 fois de In a Game of Tennis. Victime de son succès, le livre est épuisé en français, hélas non réédité, même notre expert n'a plus d'exemplaires en arabe. Aucun souci, j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence pour vous les rendre accessibles sur le court, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ses clés de coaching tous les jours, il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge et même jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre entre autres d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle, ni une méthode clé en main. On ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression. On te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement. Et ce, dès l'échauffement. Oui, je l'ai essayé dès mon entraînement suivant et je garantis les effets qui sont impressionnants, vraiment. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique lorsqu'elle surgit en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une fois ou deux maximum par saison. Généralement avec 4 matchs dans les jambes quand on sent la balle comme jamais. Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors des matchs pendant lesquels il a marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans et qui est passionné comme à la première heure. Pour un aperçu, t'as la bande-annonce qui est le deuxième lien en description de l'épisode. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, on en est à la 13e. Et les 12 précédentes sont également accessibles en lien dans la description. Et si t'as la moindre question, n'hésite surtout pas, envoie-moi un mail à max@tennislegende.fr. Si ta carrière est derrière toi, mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci aux derniers tipeurs de nous soutenir. Ça fait une grosse différence pour rendre ce projet pérenne. Tu peux contribuer à hauteur d'un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. T'as le lien en description également. Ou facile à trouver en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E, donc avec 3 E, espace tennis, espace légende, dans Google, et fonce. Notre premier stage de légende prend forme pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le court, mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe. Il y aura une vingtaine de places environ. Si t'es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait. Il est en lien dans la description de l'épisode et prend 2 minutes à remplir. Ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux aussi m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max@tennislegende.fr, donc par mail. Pense aux bouches à oreilles, encore et toujours. Merci en tout cas de bosser pour nous dans l'ombre. Vraiment, ça fait une énorme différence. Le bouche à oreille, c'est le meilleur vecteur de développement pour une chaîne de podcast aujourd'hui. Donc voilà, ne lâchez rien. Faites des stories Instagram quand vous écoutez le contenu. Ça donnera potentiellement envie à votre réseau d'en faire de même. Repartagez les épisodes sur LinkedIn. Transférez les mails de newsletter à vos amis fans de tennis. Et surtout, surtout, prenez les téléphones de vos partenaires de jeu les soirs d'entraînement ou en soirée et abonnez-les directement. Montrez-leur comment ça marche un podcast. Abonnez-les sur la chaîne YouTube dédiée au podcast et relancez-les chaque semaine en leur disant est-ce que tu as vu tel épisode? Est-ce que tu as entendu ce passage-là? Est-ce que ça t'a servi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Débriefez avec eux, vraiment engagez-les à écouter, à découvrir et eux-mêmes à devenir des ambassadeurs du podcast. Vraiment, ça fait une énorme différence, donc ne lâchez rien. Vraiment, merci du fond du cœur, par avance. Et enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max _ Zamora _ TL. _, c'est donc le trait du dessous. Tu l'as compris, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende, il n'y a plus aucun doute. Merci pour les bonnes ondes semaine après semaine. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.